Je vous l'annonçais la semaine dernière, Bruxelles est pour une semaine le centre mondial de la réflexion sur les pays pauvres ou pays les moins avancés en langage politiquement correct. Toute cette semaine, les Nations Unies tiennent chez nous leur troisième conférence sur les pays les moins avancés, avec en parallèle un forum des ONG sur la même question, qui représente un millier d'ONG du monde entier et qui a pour la première fois été associé aux travaux officiels. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'optimisme n'est pas de mise, puisque ces 30 dernières années, les pays les moins avancés n'ont fait que reculer. Tout d'abord, les pays les moins avancés, c'est quoi? En fait, pour bénéficier de l'honneur douteux de faire partie de ce club pas si fermé que ça, il faut avoir un PIB par habitant de moins de 900 dollars, en d'autres mots, une production annuelle de richesse par habitant de moins de 40 000 francs belges. Cela dit, 900 dollars, c'est déjà beaucoup, puisque la moyenne du PIB par habitant de ces pays n'est que de 235 dollars, soit une production de moins de 1 000 francs par mois et par habitant. À l'aune de ce critère de 900 dollars, 49 pays se retrouvent affublés du qualificatif moins avancé. Comme on l'imagine facilement, les trois quarts de ces pays se situent en Afrique. L'immense majorité des pays d'Afrique subsaharienne en font partie. Le seul pays le moins avancé de tout le continent américain est Haïti. En Asie, il y a l'Afghanistan, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, le Laos, le Cambodge et le Yémen. Et pour le reste, ce sont quelques petites îles ou archipels qu'on ne s'attendait pas à retrouver dans cette liste parce que leur nom évoque pour nous des plages de sable blanc sous les tropiques. Avouez que vous n'imaginiez pas que les Maldives, les îles Solomon, Vanuatu, Kiribati ou Tuvalu figuraient parmi les pays les plus pauvres du monde. Depuis que le concept des pays les moins avancés existe, le club s'est fortement élargi. En 1971, les pays les moins avancés étaient 25. Aujourd'hui, leur nombre a doublé puisqu'ils sont 49. Le seul pays à avoir réussi à s'en sortir est le Botswana, mais ça ne l'empêche pas d'être le pays le plus avancé en ce qui concerne l'évolution de l'épidémie du sida. Pour les membres restants du club des pauvres, la situation n'est pas brillante et elle ne s'améliore pas. Alors que ces 49 pays rassemblent plus de 10% de la population mondiale, ils se partagent moins d'un seul pour cent du revenu mondial. L'espérance de vie moyenne y est de 51 ans et un enfant sur six n'atteindra jamais l'âge de 5 ans. La moitié de la population est de plus analphabète. Avec de tels résultats, on peut se demander à quoi servent les conférences des Nations Unies sur les pays les moins avancés et surtout si ces pays continuent de reculer en dépit des mesures prises par les pays du Nord ou plutôt à cause de ces mesures. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de retrouver dans ce genre de conférences les présidents de la Banque mondiale ou de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, des institutions qui prétendent agir dans l'intérêt général et pour les pays les plus pauvres, alors qu'en réalité, elles ne font que sucer le peu de moelle qui leur restait encore. Au sein de la Conférence des Nations Unies, on parle de trois lignes directrices dans l'action à mener en faveur des pays les moins avancés. Allègement de la dette d'une part, accès aux marchés mondiaux pour les produits d'exportation et enfin augmentation de l'aide au développement. En tant que tels, ces trois axes sont évidemment nécessaires et salutaires. Le seul problème, c'est l'incommensurable hypocrisie qui entoure le discours. Sur l'accès au marché, par exemple, on apprend dans la Libre Belgique que l'Union européenne a montré l'exemple en février en annonçant l'ouverture de ses marchés aux produits des pays les moins avancés. Plus de barrières commerciales pour les pays pauvres sur le marché européen, le début de l'âge d'or du commerce équitable. Mais ce qu'on n'apprend pas dans la Libre, il faut aller le chercher dans un rapport publié par Oxfam ce week-end. Comme par hasard, les produits d'exportation des pays pauvres sont des produits qui sont également fabriqués chez nous, d'où concurrence, d'où protectionnisme. Les raffineries de Tirlemont, par exemple, ont demandé et obtenu une exception pour le sucre. Comme le dit un responsable d'Oxfam, on voit clairement que le lobby industriel passe avant la lutte contre la pauvreté. Autre lobby, les paysans. L'abolition des tarifs douaniers a été repoussée jusqu'en 2006 pour les bananes et jusqu'en 2009 pour le riz. Pendant ce temps, les paysans du Nord pourront continuer à vendre dans les pays pauvres leurs produits bon marché parce que grassement subventionnés. Les pays de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, consacrent 1 milliard de dollars par jour aux subventions agricoles, soit le montant total du PIB de tous les pays les moins avancés, qui n'ont pas d'autre choix que d'importer ces produits bon marché. Le résultat est catastrophique puisque selon Oxfam, Haïti meurt à petit feu en raison de la libéralisation du marché du riz et de l'afflux de riz américain subventionné. Des milliers de personnes perdent leurs revenus sur ce marché cassé et l'approvisionnement en nourriture, paradoxalement, devient précaire. On le voit lorsqu'il s'agit d'aide aux pays pauvres, il vaut mieux lire entre les lignes des grandes déclarations humanistes et chercher des sources d'informations critiques. Même chose en ce qui concerne l'aide au développement. Comme le souligne très justement Rachel Crivellaro dans La Libre Belgique, l'évolution en matière d'aide au développement a démontré ces dernières années un désintérêt des pays riches. C'est même le moins qu'on puisse dire. L'ONU avait fixé l'objectif à 0,7% du PNB, c'est-à-dire que tous les pays doivent augmenter graduellement leur budget de coopération-développement jusqu'à ce qu'il atteigne 0,7% du produit national brut. Si on fait le compte pour les 29 pays riches de l'OCDE, on arrive à un budget réel de 0,05%, soit un retour au niveau de 1970. La Belgique, qui est un des bons élèves en la matière, arrive à peine à la moitié de l'objectif de l'ONU. De toute façon, tout dépend de la façon dont cet argent est dépensé. Dans ce domaine, la Belgique a un passé très lourd puisqu'elle pratiquait l'aide liée. Chaque franc investi dans un pays pauvre au titre de la coopération-développement devait impérativement être dépensé auprès d'une société belge. Autant de millions pour une pompe à eau, mais à condition que vous la commandiez chez XY. La seule chose que la Belgique ait réussi à exporter de façon durable grâce à l'aide liée, ce sont ces grands travaux inutiles. Évidemment, les populations locales n'en profitaient pas, mais les bénéfices n'étaient pas perdus pour tout le monde et l'économie belge ne s'en portait que mieux. Heureusement, l'aide liée a été abandonnée, mais cela démontre tout de même que les discours sont parfois très loin de la réalité. Une autre perspective intéressante est de comparer, comme le fait le rapport d'Oxfam, les montants de l'aide au développement et ceux des tarifs douaniers. Ainsi, on apprend que, par exemple, le Bangladesh paye 7 fois plus de droits d'importation pour ses produits aux États-Unis qu'il ne reçoit d'aide au développement de ce même pays. Le Canada engrange chaque année plus de 70 milliards de francs en droits de douane prélevés sur les importations en provenance des pays les moins avancés, soit 5 fois plus que le budget canadien de la coopération au développement. Les droits d'importation sont d'ailleurs souvent plus chers pour les pays pauvres que pour les pays industrialisés, et ça peut aller du simple au triple. Pour certains produits vitaux en provenance du tiers-monde, les droits sont exorbitants. Les cacahuètes, par exemple, subissent une taxe d'entrée de 300% en Europe et de 100% aux États-Unis. L'ouverture des marchés occidentaux n'est donc pas pour demain, et on comprend mieux aussi que le libéralisme n'est appliqué que lorsqu'il arrange les libéraux. Pour ce qui est de la dette, les initiatives déployées pour l'instant sont aussi pauvres qu'hypocrites. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont lancé un programme de réduction de la dette des pays pauvres lourdement endettés. C'est comme ça qu'on les appelle. Seulement pour mériter cet allègement de leur dette, ces pays doivent d'abord se plier pendant 3 ans à un programme de réforme économique très strict, dont les grandes lignes sont évidemment tracées par le FMI et la Banque mondiale. Ensuite, leur dette est allégée en 2 phases, mais ils doivent continuer à respecter les diktats économiques des institutions financières mondiales. Selon l'analyse d'Oxfam, au moins 13 des pays les moins avancés continueront, après cet allègement, à consacrer 10% de leur budget au remboursement de la dette, de l'argent qui serait évidemment mieux dépensé en éducation et en infrastructures de santé. Les autres initiatives font tout aussi pâle figure par rapport à l'annulation pure et simple de la dette, qui est une option tout à fait réaliste. Si pour les pays les moins avancés, la dette paraît insurmontable, ce qui reste à payer correspond à 101% du total de leur PNB, la somme est cependant beaucoup moins impressionnante pour les pays industrialisés. Le montant total de la dette des pays les moins avancés était évalué en 1998 à 150 milliards de dollars, à peine plus que le budget estimé du bouclier antimissile de George Bush, dont je vous disais la semaine dernière qu'il ne fonctionne même pas. Toutes ces initiatives en demi-teinte font dire aux ONG qui participent au forum cette semaine que les initiatives d'allègement de la dette ont été réduites à un niveau tel qu'elles sont devenues un instrument pour maintenir les pays endettés à un niveau viable de remboursement. En d'autres termes, on allège juste assez pour que les pays endettés puissent continuer à nous rembourser et pour garder un levier pour les manipuler. C'est d'ailleurs exactement ce qu'en pense Éric Toussaint, le président du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM. Samedi dernier, il participait à la fête qui se déroulait au pied du cinquantenaire en marge du forum des ONG pour exiger notamment un commerce équitable, la suppression de la dette ou encore l'application d'une taxe sur la spéculation pour alimenter un fonds pour le développement, la fameuse taxe Tobin.
Donc là, vous êtes accoudé au cinquantenaire qui est un grand symbole du colonialisme. D'abord, en quoi est-ce que c'est un symbole du colonialisme?
En fait, c'est une œuvre commandée par Léopold II. Qui était destiné à célébrer son règne et ce qu'il appelait son œuvre coloniale. Ça a été bâti en fait sur la base du pillage essentiellement du Congo, avec les richesses du Congo. Et c'est une des nombreuses œuvres architecturales qui mériterait de subir le sort, en tout cas, je pense aux statues équestres de Léopold II, etc., le sort. Qu'ont subi les statues de Staline ou d'autres dictateurs au niveau de la planète. On s'en est félicité quand ça avait lieu dans d'autres pays. Et puis, si vous regardez, si vous faites un tour de la Belgique, vous faites un tour de Bruxelles, vous verrez un peu partout des signes ou des symboles de la monarchie qui sont parfaitement les symboles d'un système antidémocratique et d'un passé absolument pas glorieux de la Belgique.
Alors là, au pied de ce cinquantenaire, il y a une fête pour revendiquer un autre monde qui serait possible, un monde avec un commerce plus éthique, équitable et stopper le pillage, etc. Justement, au pied de ce cinquantenaire, en tant que symbole, moi, le colonialisme, on m'avait dit que ça s'était arrêté avec l'indépendance des pays colonisés. Apparemment, c'est toujours d'actualité, ce ne serait pas le cas, donc.
Ah, je pense qu'il y a une recolonisation en marche. Pourquoi recolonisation? Parce que les politiques qui sont impliquées dans les pays endettés, c'est 90% des pays du tiers-monde, leurs politiques sont maintenant dictées à partir de Washington, à partir donc des institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI, ou bien à partir du Club de Paris, qui est le club des créanciers publics, ou bien à partir du Club de Londres, qui est le club des créanciers privés. Et c'est là qu'on décide quelles politiques seront menées dans les pays du Sud. Ben, si ça, c'est du colonialisme, à savoir un abandon de souveraineté forcé par les pays du Sud à cause du chantage, de l'arme, de la dette. Alors effectivement, le colonialisme de papa, il est dépassé, mais il y a un nouveau colonialisme.
À l'époque du colonialisme de papa, les choses étaient très claires, c'est-à-dire qu'on pensait que pour faire cesser le colonialisme, il suffisait de revendiquer et puis d'acquérir son indépendance. On a vu que ce n'était pas vrai. Les pays colonisés ont acquis pour la majorité leur indépendance et insidieusement, la colonisation a continué. Quelle serait aujourd'hui une lutte efficace de ces pays pour acquérir une réelle indépendance, c'est-à-dire une indépendance au niveau du commerce, de la gestion de leurs ressources, etc.
Mais je pense que ça peut partir que de la base, que des mouvements de citoyens, de citoyennes, que de la population en général, dans ces organisations économiques, ces organisations syndicales, les organisations de jeunes, de femmes, etc. On ne peut pas attendre des gouvernements du Sud, et encore moins des gouvernements du Nord, qu'ils poussent eux-mêmes à une véritable souveraineté, à l'exercice d'une véritable souveraineté par les pays du Sud. En fait, il y a fondamentalement une complicité entre les régimes au pouvoir dans le Sud et les régimes du Nord. Cette complicité, elle se marque, y compris par des détournements d'argent, par un enrichissement personnel important, des gouvernements du Sud avec la complicité du Nord. On voit aussi que la corruption n'est pas du tout l'apanage du Sud. On se rend compte avec des tas de scandales, de procès qui ont lieu dans le Nord, etc. Bref, c'est pas sur eux qu'on peut se reposer pour une solution en termes d'indépendance favorable aux populations, c'est les populations elles-mêmes, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Alors, lors d'une rencontre comme celle-ci, ceux et celles qui sont là, ce sont des citoyens, des citoyennes, des représentants de mouvements du Sud qui rencontrent des représentants des mouvements du Nord. Et on essaye ensemble d'élaborer une alternative, une stratégie pour combattre des ennemis qui ont pour nom FMI, Banque mondiale, les bourses des différents pays du Nord, les multinationales, le G7, etc.
Mais pourtant, comme vous le disiez, ces pays, enfin, pardon, ces institutions ont pour soi-disant pour but, et en tout cas affirment qu'elles sont là pour un monde plus équitable, pour comment dire, faire décoller les pays les moins avancés. Et à mon sens, il y a pas mal de gens bien intentionnés, mais très mal informés, qui pensent réellement que la Banque mondiale est une œuvre de coopération-développement, le FMI idem. Est-ce que c'est en partie pour ça aussi qu'on fait des fêtes comme celle-ci pour comment dire convertir des non-convertis? Parce que le problème dans ces rassemblements comme celui-ci, à mon sens, c'est en partie qu'on prêche que des gens qui sont déjà convertis, qu'on atteint que des gens qui savent déjà de quoi il s'agit et qui viendront ici pour dire oui, effectivement, mais on savait déjà.
Et donc cet événement, il est conçu il est destiné à un maximum de gens, aux couches les plus larges de la population. Maintenant, c'est pas évident de faire connaître l'existence de cet événement. Par exemple, hier, j'étais invité à Matin Première au premier programme de la RTBF, de 8h moins quart à 8h. Et je dis au journaliste qui m'invite, Jean-Pierre Jacquemin, et donc je vais pouvoir annoncer l'activité qui aura lieu au cinquantenaire demain. Et il m'a dit, mais quelle activité? Je ne suis pas au courant. À la RTBF, on n'était pas au courant de cette activité, on n'en a pas parlé. Et il se fait que j'ai pu en parler parce que j'étais interviewé, mais c'est indiqué qu'il y a du côté des grands médias une indifférence, voire une hostilité à l'égard de ce type d'événement. Alors, ils sont conçus, et s'il y avait des dizaines de milliers de personnes ici, ben, je crois que le message les formes adoptées pour faire passer le message en termes de théâtre, en termes de travail d'artiste pictural, etc., passerait. Le problème, c'est d'arriver à ce qu'un maximum de gens soient ici. Et effectivement, il y a tout un travail énorme à faire de la part des ONG, des mouvements sociaux en général, pour réussir à s'adresser à l'ensemble de la population, pas simplement en termes de revendications, mais en termes d'élaborer ensemble des alternatives. Je disais, le message à faire passer, quand j'ai dit ça il y a un instant, ce n'était pas dans le sens, on attend un public pour lui faire ingurgiter un discours. Le message, c'est un message d'élaboration ensemble, d'alternatives, d'échanges, etc. Ce n'est pas un message en termes de réponse toute faite.
Vous dites qu'il y a une certaine indifférence, voire hostilité, au sein des médias vis-à-vis de ce genre d'événement. Qu'est-ce qui peut, d'après vous, qu'est-ce qui vous fait dire ça et qu'est-ce qui peut, d'après vous, motiver cette hostilité?
Je pense qu'il y a une solidarité fondamentale entre les directions de ces médias, entre les chefs de rédaction, de beaucoup de rédactions de médias, et les organismes internationaux du type Banque mondiale et FMI. Ils se sentent du même côté, ils se sentent solidaires et ils trouvent qu'il y a des trublions. À qui ce serait faire trop d'honneur que de donner la parole. Il y a un conservatisme tout à fait profond dans les médias. Je veux dire, demain dimanche, il y aura les élections en Italie. Ben, on sait que le candidat de la droite, il contrôle déjà 70% des médias, et s'il devient chef du gouvernement, il contrôlera à peu près le reste. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose de surprenant de voir par les temps qui courent des coalitions d'intérêts de manière systématique entre des grands groupes médiatiques, le pouvoir, des grandes entreprises et des institutions internationales. Et donc les journalistes qui essaient de faire entendre une autre voix, ils sont trop peu nombreux. À mon avis, ils se battent pas assez. Quand ils se battent, il faudrait que nous, on les soutienne. Parce que quelquefois ils sont isolés lorsqu'ils affrontent l'hostilité de leur chef ou de leurs collègues. Et c'est un combat fondamental, le terrain des médias.
Vous êtes ici en tant que président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Pour vous, l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est un des ingrédients d'une lutte pour un monde meilleur, ou c'est carrément un préalable à tout développement possible des pays les moins avancés?
Ah, c'est une condition sine qua non de tout développement. C'est une condition sine qua non. Ça veut dire que c'est une condition nécessaire, mais en même temps, elle est insuffisante. Il faut annuler la dette et puis il faut prendre toute une série de mesures qui portent sur le commerce, qui portent sur la taxation du capital et notamment via la taxe Tobin, qui portent sur la démocratie, l'auto-organisation des populations, qui porte sur la lutte contre la corruption. Toutes ces dimensions-là doivent trouver des solutions adéquates et il faut un programme complet. Alors il faut bien commencer par quelque part. Je dirais ce quelque part, dans les priorités, il y a la question de la dette qu'il faut annuler, il y a la question du commerce qui est un autre point fondamental.
Les institutions internationales qui gèrent entre guillemets la dette des pays du tiers-monde ont pourtant annoncé un allègement d'après elles assez radical de cette dette. Apparemment, c'est du pipeau. Pourquoi? En bref.
Oui, c'est du pipeau, c'est de la carabistouille. Pourquoi? Parce que ces institutions n'ont aucunement l'intention de se défaire d'un instrument de subordination des pays endettés. Imaginez que si ces institutions annulaient les créances qu'elles détiennent sur les pays en question, elles n'auraient plus les moyens de leur imposer les politiques qu'elles ont envie de leur voir appliquer. Et donc, elles sont pas du tout prêtes, au-delà du discours, ailleurs que dans le discours, à annuler réellement les dettes. En pratique, ce qui est fait, c'est des allègements tout à fait cosmétiques pour quelques pays qui sont des bons élèves de ces institutions, comme l'Ouganda, par exemple, à qui on ne reproche pas par ailleurs d'occuper une partie du territoire congolais parce que ça sert les intérêts stratégiques des États-Unis. Donc il ne faut se faire aucune illusion sur les discours et les intentions réelles de ces institutions. Il faut un combat de la société civile, des mouvements citoyens, pour les obliger à passer du discours à la pratique.
Est-ce qu'il y a moyen avec ces institutions-là de passer du discours à la pratique? Parce que là, c'est un discours plutôt de réforme. On entend par ailleurs des discours plus radicaux d'abolition et de reconstruction d'autres choses.
Oui, non, je dis mettre sous pression, c'est-à-dire obtenir des changements de politique. Ça, c'est une chose. Mais fondamentalement, je pense que ces institutions peuvent pas être réformées. Leurs constitutions même sont parfaitement antidémocratiques. Il n'y a que les pays les plus riches qui ont les moyens de peser sur les décisions de ces institutions. Et donc, il faut modifier complètement le système multilatéral de financement. Il faut un fonds monétaire international qui s'occupe de stabilité monétaire. Il faut certainement une banque mondiale. Mais le fonds monétaire actuel et la banque mondiale actuelle sont des institutions qui sont irréformables. Donc, il faut les remplacer par d'autres mieux adaptées aux besoins des populations.
La lecture de la presse de la semaine à propos de cette conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés est instructive. Je vous avoue tout de suite que je n'ai pu mettre la main que sur un seul numéro du soir, celui d'hier, et que c'est donc sur la Libre Belgique que s'est concentrée cette lecture. Globalement, la journaliste qui couvre le sujet, Rachel Crivellaro, ne s'en tire pas trop mal. Elle reflète fidèlement les enjeux de cette conférence et elle donne la parole à un partisan de l'annulation de la dette. L'espace accordé au sujet est assez large et il y a même un compte-rendu de la fête du cinquantenaire. Pourtant, quelques remarques s'imposent, notamment sur le vocabulaire utilisé, en particulier dans les titres. Je vous en cite quelques-uns. Casser le cercle vicieux de la misère, le cancer de la pauvreté pour cible, comment aider les déshérités, ou encore, pour décrire la fête au cinquantenaire, prier pour un autre monde. À la lecture de ces titres, on se dit que la Libre n'a pas tout pigé en matière de pauvreté. À en croire ces titres, la pauvreté serait une fatalité, un manque de bol, voire un cercle vicieux, plutôt que le résultat et le moteur d'une domination économique. Les pauvres seraient des déshérités, alors que le mot exploité serait plus à sa place. On le constate aussi en lisant certaines déclarations ou propositions que relaye la Libre sans aucune mise en perspective. Il y a par exemple la généreuse proposition de Jacques Chirac qui propose de faire des dons aux pays les plus pauvres pour financer partiellement leurs dépenses sociales et les prémunir contre le fléau du surendettement. Ça revient donc à leur donner une aumône pour construire un hôpital et une école pour s'assurer qu'ils puissent continuer à rembourser la dette. Il y a aussi la très cynique déclaration du président nigérian Obasanjo, dont le pays ne fait pas partie des pays les moins avancés. Il a rappelé que la pauvreté est le manque de tout, de nourriture, de maison et de droits de l'homme. Il a ajouté que la bonne gouvernance doit faire partie intégrante du gouvernement. Plus de 50% des pays les moins avancés ont connu des conflits armés ces dernières années. Là, par exemple, la Libre aurait pu rappeler que le monsieur qui prononce ces belles paroles est le même qui avait fait pendre des malotrus qui se révoltaient contre l'exploitation et la pollution de leurs terres par la société pétrolière Shell. Lorsqu'il évoque le manque de droits de l'homme, il sait donc de quoi il parle. Pour lui, la bonne gouvernance, c'est de réprimer les conflits dans le sang avant qu'ils n'éclatent et qu'ils fassent obstacle à l'avancement du pays. Il y a encore James Wolfensohn, le président de la Banque mondiale, qui déclarait qu'il faut impliquer les communautés locales dans le développement en disant « Il n'y a pas de développement avec un fusil sur la tempe ». Là aussi, un bon journal ajouterait qu'il le sait bien, puisque c'est précisément avec un fusil sur la tempe que la Banque mondiale accorde des prêts. Ça ne s'appelle évidemment pas fusil sur la tempe, mais ajustement structurel. Le nom a changé depuis peu, mais la pratique reste la même. Ce n'est pas tout, le même James Wolfensohn a appelé de ses voeux des réformes en matière d'infrastructures pour soutenir le développement. Il dit: il n'y a aucun sens à vouloir une ouverture au commerce si vous n'avez pas de port, de route, d'entrepôt frigorifique, pas de capacité d'exporter. Et qui sait qui va se charger de construire tout ça, à votre avis? Des investisseurs occidentaux, évidemment, avec de l'argent prêté aux pays pauvres dans le pire des cas. Par conséquent, il faut libéraliser l'investissement, en particulier dans le tiers-monde, comme le prévoyait l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, qui était un instrument d'exploitation du tiers-monde. Bruxelles est donc pour une semaine le royaume du paradoxe qui tue. Pour terminer, une déclaration passablement déprimante de Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, lors de l'ouverture de cette conférence. Pour lui, ces réunions doivent être différentes de celles qui les ont précédées. Et elles sont une dernière chance pour les populations qui ne veulent pas vivre de la charité. Il me semble déjà avoir entendu ce genre d'imprécation et je crains que ce ne soit lors du dernier sommet de la Haye sur le climat.
Je suis pourri, je sens mauvais. Y'a mon litron qui m'a torché. Même pas d'enfant pour faire pitié. Franchement, qu'est-ce que tu es? Tu es d'un vieux tas d'un chat comme moi. Tu ne sais faire à trois étoiles. Je vis comme un rat sous la terre, un rat dans la trappe. Je ne veux plus voir la lumière. Je vis comme un rat sous la terre. Je ne veux plus voir la lumière. Je suis pauvre et je pue la gueule. J'ai l'air un peu starbé de la tête. C'est le manque d'amour qui rend fou. La braguette ouverte sur le monde. Et même que je lui pisse dessus, moi quand je vois, c'est même pas bon. Ça se mélange avec la mort. Et j'ai pas de mouchoir. C'est rien que des larmes de poivron. Un jour je vais en attraper une de ces pétales qui passe. Une belle qui transpire le savon. La braguette ouverte sur le monde. Et même que j'y pisse dessus, moi quand je pleure c'est même pas bon. Ça se mélange avec la mort. Mais j'ai pas de mouchoir. C'est rien que des larmes de poivron. Je suis pauvre et je sens mauvais. Y'a mon litron qui m'a touché. Même pas d'enfant pour faire pitié. Franchement, qu'est-ce que pourrait tirer d'un vieux tas de linge sale comme moi d'une citerne à trois étoiles. Je vis comme un rat sous la terre, moi traceuse dans la trace. Je ne veux plus voir la lumière. Peut-être même que je me suis fait violer. Forcément, quand on dort d'homme. Pas le droit de choisir son bonhomme. Un jour j'aurai un pistolet, je me mettrai bien au milieu. Et quand je vous cracherai mon sale sang à la gueule. Allez!
Les apatistes sont rentrés au Chiapas. Je vous avais parlé de la marche sur Mexico pour la dignité indigène, une marche de 3 semaines qui avait mené des représentants de l'armée zapatiste de libération nationale sur la plus grande place de la capitale pour demander la restauration du dialogue avec le gouvernement. Pour cette reprise du dialogue, les apatistes exigeaient 3 gestes préalables de bonne volonté de la part du gouvernement et du nouveau président, Vicente Fox. Il demandait la libération des prisonniers apatistes, l'évacuation de 7 camps militaires au Chiapas sur plus de 250 et enfin surtout l'adoption par le Parlement de la loi dite COCOPA. La COCOPA, c'est la Commission de Concorde et de Pacification qui avait négocié en 1996 un projet de loi avec le mouvement zapatiste. Cette loi qui n'avait jamais été adoptée reconnaissait notamment les peuples indigènes en tant que sujets de droit public, leur donnait une certaine autodétermination et reconnaissait leur droit à jouir de leurs terres et de leurs ressources naturelles. 5 ans plus tard, cette loi n'était toujours pas votée et sa revendication était l'un des principaux buts de la marche sur Mexico. Après la marche, les apatistes sont donc rentrés chez eux au Chiapas et c'est un peu dans leur dos qu'une loi a été finalement votée. Je dis une loi puisque selon le président Fox, le fameux projet Cocopa est désormais voté et par conséquent le conflit armé est terminé. Par contre, les apatistes ne voient pas du tout les choses de la même façon. Pour eux, le projet de loi original a été tellement amendé qu'il s'en est retrouvé mutilé sans aucune concertation avec le mouvement indigène ou l'armée apatiste. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls à réagir avec indignation puisque la direction de l'Institut national indigéniste, des membres de l'ancienne COCOPA et de nombreux universitaires et associations se joignent à eux pour crier leur désaccord. Il semble donc bien que la méfiance vis-à-vis de Fox était justifiée. Pour les apatistes, la loi qui a été votée fin avril ne reflète en rien l'esprit des accords de San Andrés qui avait accouché du projet de loi COCOPA et elle sabote le processus de rapprochement entre le gouvernement fédéral et l'armée apatiste. Le sous-commandant Marcos parle même d'un divorce total. Bref, les apatistes ne sont pas contents du tout. Ils ont décidé par conséquent d'interrompre tous les contacts avec le gouvernement et de ne les reprendre qu'après le vote de la loi telle que l'avait écrite la COCOPA. En attendant, ils restent en résistance et en rébellion. En clair, si rien ne bouge rapidement, on se retrouvera dans la situation qui a prévalu entre 1997 et 2000, sans paix ni dialogue et avec une militarisation croissante des territoires indigènes. Bref, le retour à ce qu'on a appelé la guerre de basse intensité. La seule différence, c'est que le président Fox a maintenant donné tous les gages de sa bonne volonté, c'est en tout cas comme ça qu'il présente les choses, et les apatistes craignent par conséquent qu'il va lancer contre eux une campagne médiatique avant de passer à d'éventuelles provocations ou agressions plus directes. Bref, après une brève lueur d'espoir, les choses semblent de nouveau se détériorer. Par conséquent, les apatistes appellent entre autres la communauté internationale à se mobiliser pour exiger que le gouvernement tienne ses engagements et reconnaisse constitutionnellement les droits des Indiens et de la culture indienne. Donc, je compte sur vous pour vous mobiliser et je vous tiendrai au courant des résultats.
A call or two, my dearest friends and family, who so solemnly and nicely dressed, come visit me. I must confess, I feel like Gina might upon her opening night.
La nouvelle n'est plus toute fraîche, mais je n'avais trouvé la semaine dernière ni le temps ni l'espace pour vous en parler. Coup sur coup, les États-Unis viennent de se prendre deux claques bien senties sur la scène internationale. En un seul jour, ils ont été exclus de deux commissions très importantes, la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève et le Conseil international de contrôle des drogues du Conseil économique et social des Nations Unies. Comme par hasard, il s'agit là de deux domaines dans lesquels les États-Unis se permettent de faire la leçon au reste du monde alors qu'ils induisent eux-mêmes des catastrophes. L'exclusion du Conseil de contrôle des drogues a fait peu de bruit parce qu'elle a été tenue secrète pendant une semaine. Notons juste que les Pays-Bas font partie de ce même conseil et risquent d'utiliser leur siège à meilleur escient que les États-Unis. Par contre, tous les journaux ont parlé de l'exclusion américaine de la Commission des droits de l'homme. Pour Philippe Paquet, dans la Libre Belgique, il s'agit là d'une cruelle ironie, puisque c'est justement cette année que les Américains avaient décidé de verser à l'ONU leurs arriérés de cotisations, qui s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars. Une fois de plus, on constate que les Américains rechignent moins à claquer leurs sous pour un jouet technologique inefficace et hors de prix que pour un dû à la communauté internationale qui leur coûte 100 fois moins cher. Ce qui s'est passé au sein de la Commission des droits de l'homme, c'est que les autres pays en ont eu marre de l'arrogance américaine. Comme le vote était secret, des pays traditionnellement alliés des États-Unis ont osé voter contre leur présence dans le club. Il y avait 3 places à occuper pour les pays occidentaux et d'autres pays ont obtenu plus de voix que les États-Unis, qui avaient pourtant toujours siégé dans cette commission depuis sa création en 1947. Évidemment, il ne faut pas voir dans ce vote un grand retournement vertueux. D'une part, il y a les ennemis traditionnels, comme la Chine ou la Libye, qui ont évidemment voté contre et qui ne sont pas tellement plus nets en matière de droits de l'homme. Les autres, les alliés traditionnels, se sont sans doute sentis irrités, selon Philippe Paquet, par quelques récentes décisions du nouveau président américain. On pense évidemment à la construction du bouclier antimissile ou au refus de ratifier le traité de Kyoto sur le réchauffement climatique. Pour Philippe Paquet, il y a aussi le refus d'interdire les mines antipersonnelles, de ratifier le traité instituant un tribunal pénal international et de signer la charte sur les droits de l'enfant. Des affaires plus anciennes donc, mais qui ont sans doute contribué à ce revirement. Paquet a interrogé à ce sujet le président et le vice-président de la Commission des affaires étrangères du Parlement chinois. En une phrase, le président de cette commission formule parfaitement ce qui dérange dans l'attitude des États-Unis en matière de droits de l'homme. Je cite. À travers ce vote, on peut démontrer que l'exploitation des droits de l'homme par les États-Unis à des fins politiques pour s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays et jouer le rôle d'un gendarme international n'est pas acceptée par les pays du monde entier. C'est bien de ça qu'il s'agit, donner une leçon aux donneurs de leçons. Il ne faut évidemment pas en conclure que la Chine est plus recommandable en matière de droits de l'homme que les États-Unis, mais c'est vrai qu'on n'a jamais entendu un dirigeant chinois se servir des droits de l'homme pour motiver ses politiques douteuses. En conclusion de son article, Philippe Paquet remarque insidieusement que les États-Unis ont été virés au profit de la France, qui prend conscience ces jours-ci de son passé tortionnaire en Algérie, et de l'Autriche, dirigée par l'extrême droite. Philippe Paquet a l'air de le regretter, mais c'est sans doute parce qu'il choisit d'oublier toutes les violations des droits de l'homme dont se sont rendus responsables dans le monde les États-Unis depuis le début de la guerre du Vietnam. La France et l'Autriche ensemble ne leur arrivent même pas à la cheville. Dans Le Soir, Paul Mathil fait la même analyse que son confrère de La Libre sur les raisons de l'éviction des États-Unis, mais lui, il n'est pas content du tout, tellement pas content qu'il consacre même un éditorial à cette affaire. Pour lui, il s'agit là d'un record du monde d'hypocrisie, puisque lors du même vote, le Soudan a obtenu un siège dans la Commission des droits de l'homme. Rien à dire, le Soudan n'est pas un enfant de cœur. Pour Paul Mathil, le front du refus se divise en 2 camps, les bons et les mauvais. Les uns, écrit-il, animés par de bons sentiments, croyaient pouvoir par ce geste lancer à l'adresse de la diplomatie américaine le signal de leur grande frustration provoquée par l'opposition systématique de Washington aux idées de notre époque. Et Paul Mathil de citer Kyoto, le bouclier antimissile et la Cour de justice internationale. Les autres, poursuit-il, comme la Chine, Cuba, le Sierra Leone, l'Algérie, la Libye ou la Russie, violeurs notoires des droits de l'homme, voulaient tout simplement se débarrasser d'un État qui essayait de les clouer régulièrement au pilori de l'opinion mondiale. À lire Paul Mathil, les États-Unis ne seraient donc pas des violeurs notoires des droits de l'homme, mais plutôt l'ange gardien des opprimés dans les autres pays. Qu'il aille donc expliquer ça à des jeunes Américains qui se retrouvent en prison à vie pour avoir vendu un peu de shit ou avoir volé un morceau de pizza, ou alors à un paysan colombien empoisonné par la pulvérisation d'herbicides sur son champ de coca, ou alors à une Irakienne dont l'enfant est mort de faim, ou alors à un Serbe cancéreux suite au bombardement à l'uranium appauvri, ou alors à bien d'autres encore. Cette vision manichéenne des bons et des mauvais est tout à fait indigne d'une analyse journalistique. Cela dit, c'est d'un éditorial du Soir que je suis en train de vous parler. Paul Mathil poursuit en imaginant que certains des pays qui ont voté contre les États-Unis l'ont fait par anti-américanisme primaire. On n'aime pas ceux auxquels on doit beaucoup, explique Mathil, et on pardonne difficilement, surtout quand on est incapable de la payer en retour, une assistance comme celle que les USA ont apportée à l'Europe, le sacrifice lors de 2 guerres mondiales, le plan Marshall, le parapluie contre l'expansionnisme soviétique, l'aide incontournable lors de l'opération en principe européenne dans les Balkans. Fin de citation. Bref, si on n'aime pas les Américains pour tout ce qu'ils nous ont donné, on est ingrat. En conclusion, Paul Mathil estime que la Commission des droits de l'homme s'est tirée une balle dans le pied puisqu'elle ne risque pas, d'après lui, de fonctionner mieux sans les États-Unis qu'avec eux. De mon côté, je suis prêt à prendre le pari qu'elle ne fonctionnera pas moins bien. Charles Mathil est apparemment très sensible à la propagande. D'après son éditorial, il semble qu'il croit au rôle noble que les États-Unis affirment jouer dans le monde. À mon avis, il n'a pas dû lire le livre d'Anne Morelli, dont je vous parlais il y a quelques semaines, « Principes élémentaires de propagande de guerre ». Dans ce petit livre, Anne Morelli énumère les principes d'hypocrisie que les nations en guerre ne manquent pas d'utiliser pour rallier l'opinion publique à leur funeste cause. Pour vous rafraîchir la mémoire, un tout petit extrait de son interview dans lequel elle énumère quelques-uns de ses principes.
Très étonnamment, on voit que ces principes sont en fait des principes très stables. On essaie toujours, lors de chaque conflit, non seulement les conflits internationaux, mais même les conflits sociaux, de faire croire à l'opinion publique pour qu'elle adhère à notre cause, que nous ne sommes pas responsables du conflit, évidemment toute la responsabilité du conflit porte sur l'autre, que c'est le leader adverse qui est un fou, un maniaque qui a entraîné son peuple dans une guerre absurde, on ne parlera pas des motifs économiques, on insistera sur le fait que les adversaires font toutes sortes d'atrocités. Et donc, il y a là toute une grille d'analyse qui était valable pour la propagande de guerre pendant la Première Guerre mondiale, mais qui est encore valable pour les conflits les plus récents.
Hier mardi, l'association des téléspectateurs actifs recevait dans le cadre des midis de l'audiovisuel à la FNAC Anne Morelli pour son livre et Paul Germain, le présentateur de l'écran témoin à la RTBF. À l'époque de la guerre du Golfe, Germain était journaliste au journal télévisé et il avait couvert la guerre. Aujourd'hui, il avoue s'être fait manipuler, mais il hésite encore à adhérer pleinement à l'analyse de la propagande de guerre d'Anne Morelli.
Pour commencer sur le livre d'Anne Morelli, vous l'avez lu et vous l'avez recommandé, mais vous avez néanmoins quelques petites réticences. Est-ce que vous pouvez expliquer ces réticences ?
Oui, enfin d'abord, il faut dire qu'il y a une part de spectacle dans ce qu'on vient de faire ici à la FNAC, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un livre qui est très très bien fait, qui décortique extrêmement bien la manière dont la propagande de guerre est menée, la manière dont les militaires font de la propagande. Moi, mes réticences, elles viennent du fait qu'elle analyse et elle décortique surtout la manière dont l'OTAN, pour parler de situation d'aujourd'hui, a mené sa propagande de guerre par rapport au Kosovo, et qu'on ne voit pas très bien le même mécanisme démonté, décortiqué quand il s'agit du camp serbe, du camp de Milosevic en particulier. Donc on a l'impression je crois qu'on peut faire son mea culpa et que parfois il y a effectivement une propagande qui est menée par les militaires, mais ils font leur métier. La question est de savoir si les journalistes relayent ou non cette propagande. C'est vrai aussi que parfois les journalistes tombent dans le piège et relayent une certaine propagande de guerre, mais ce serait bien aussi de voir ce qu'on fait de l'autre côté. Et c'est vrai qu'en lisant le livre d'Anne Morelli, qui dit notamment l'un des grands principes de la propagande de guerre, c'est de diaboliser l'ennemi, en l'occurrence pour parler de la guerre au Kosovo, de diaboliser Milosevic, on ne montre pas suffisamment dans ce livre tous les efforts de propagande qui sont menés par le camp de Belgrade durant cette guerre-là. Donc c'est vrai qu'au sortir de ce livre, on se dit, bon, ben, peut-être qu'on a trop diabolisé Milosevic et que ce type n'est peut-être pas si mal que ça, qu'il n'est peut-être pas si méchant qu'on le dit. C'est de la propagande. Alors là, effectivement, je trouve que c'est peut-être dangereux.
La réponse d'Anne Morelli à ça, ce serait probablement, d'une part, la propagande qu'elle critique, c'est celle à laquelle elle pourrait éventuellement changer quelque chose en tant que citoyenne des pays qui la produisent. Et d'autre part, on est beaucoup moins soumis à la propagande serbe qu'à la propagande occidentale, non ?
On est moins soumis à la propagande occidentale, quoique...
Non, moins soumis à la propagande serbe.
On est moins soumis à la propagande serbe, quoique je pense qu'on est parfois tombé dans le panneau. Je crois que Milosevic a fait une double manipulation à la fois par rapport à son propre peuple, où il a expliqué qu'à partir du moment où les Serbes feraient la paix, ils auraient tout à perdre, et que les Serbes ont toujours tout gagné grâce à la guerre. Et en même temps, il a fait une propagande, une manipulation vis-à-vis, en direction de l'Occident, en essayant de faire croire que tous les Serbes étaient derrière lui. Et je pense que beaucoup de médias, à une certaine époque, ont cru cela, ont cru que tous les Serbes étaient des pourris. Et il y a eu une politique dans les médias qui était une politique anti-serbe. Je crois qu'à partir de la guerre en Bosnie, sur la fin de la guerre en Bosnie, on a constaté qu'il y avait certains journalistes, à la RTBF en particulier, milliers qui ont essayé de tirer le signal d'alarme et de dire attention, tous les Serbes ne sont pas derrière Milosevic, tous les Serbes ne sont pas des pourris, tous les Serbes ne veulent pas la guerre. Mais donc c'est quand même la preuve que parfois la propagande, elle dépasse son propre clan. Mais il n'y a rien à faire, je considère quand même que le livre d'Anne Morelli est partiel et partial parce qu'elle ne met pas suffisamment l'accent sur les manipulations de l'autre camp. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit innocent et qu'elle ait voulu simplement s'attaquer à notre camp. C'est vrai, quand elle dit qu'il faut commencer à laver, il faut laver son linge sale en famille, il faut balayer devant sa porte, tout ça est vrai. Mais je sens certaines réticences malgré tout chez elle à critiquer l'autre camp.
Vous avez dit aussi les politiques font leur politique et les journalistes parfois relayent, mais pas toujours. Mais on a quand même l'impression qu'il y a une grande importance du vocabulaire qui est utilisé dans les médias pour l'image que se forme l'opinion publique de tel ou tel régime, par exemple. Et à cet égard, on se demande pourquoi les médias ont à tel point diabolisé un Milosevic, un Saddam Hussein, qui le méritait ou non, la question n'est pas là. Et en même temps, on a toujours parlé de façon lénifiante d'un Mobutu, là où c'est pas très personnalisé, n'ont jamais dit de gros mots sur la Turquie, par exemple.
Mais je pense que là, de nouveau, il faut faire la distinction et en écoutant Anne Morelli, on a parfois l'impression qu'elle fait un amalgame entre les politiques et les journalistes. Je pense qu'effectivement, il y a du côté politique parfois des grandes prudences qu'on pourrait qualifier de lâcheté quand on pense à la guerre en Tchétchénie. Effectivement, on ne condamne sans doute pas assez sur le plan politique l'attitude d'un Poutine, mais on ne peut pas dire que les journalistes embrayent et relayent les politiques. Enfin, moi, je lis plusieurs journaux, je peux quand même dire que je vois fréquemment des articles ou des reportages à la télé qui dénoncent les atrocités commises en Tchétchénie. Donc, il ne faut pas présenter les journalistes du camp occidental comme étant nécessairement des porte-parole du clan politique. Ça arrive, sans doute ça arrive, c'est arrivé, il faut pas, j'ai pas envie de défendre comme ça globalement toute la classe journalistique, mais enfin il y a quand même autre chose.
Mais il y a quand même une grosse différence de vocabulaire, non ? C'était le sens de ma question précédente, c'est que d'une part, effectivement, peut-être qu'il arrive qu'on critique Poutine pour ce qu'il fait en Tchétchénie, peut-être qu'il arrive qu'on critique les Turcs pour ce qu'ils font au Kurdistan, mais jamais dans les mêmes termes, et ça c'est peut-être le politique qui ouvre la barrière pour dire « vous pouvez y aller », jamais dans les mêmes termes qu'on a pu critiquer un Saddam Hussein ou un Milosevic qui étaient des bouchers, des SS, des nazis, etc. Il y a critique et critique quand même.
Peut-être qu'on peut dire que les journalistes ne critiquent pas suffisamment Poutine sur la Tchétchénie. Moi, j'ai pas vraiment cette impression-là. J'ai pas l'impression que les journalistes sont manipulés sur des dossiers comme ça, en plus qui ne les concernent pas quand même dans leur quotidien. Je vois pas pourquoi un journaliste commencerait à faire de la censure, de l'autocensure sur ces questions-là. Prenons l'exemple d'Israël. Aujourd'hui, si un reproche est fait aux journalistes, on ne peut pas dire que c'est le reproche de défendre Israël. Le reproche de beaucoup, c'est de dire que les journalistes sont trop pro-palestiniens aujourd'hui. Donc le journaliste n'est pas nécessairement du côté des gouvernements ou des pouvoirs amis que seraient la Turquie, la Russie ou Israël. Moi, j'ai l'impression, moi je vois en tout cas dans la presse, beaucoup de critiques. J'ai pas le même sentiment de parano que vous semblez avoir.
Vous êtes venu ici en partie pour défendre les journalistes et aussi pour vous défendre un peu vous-même. Et vous avez courageusement avoué vous être fait manipuler pendant la guerre du Golfe. Comment est-ce qu'on doit imaginer ces manipulations vues par la personne qui en fait l'objet? Comment ça s'est traduit exactement?
Oui, en fait, je ne suis pas venu ici pour défendre, me défendre, mais pour expliquer des choses, comment fonctionne la presse. Mais c'est vrai que durant la guerre du Golfe, moi, je peux dire que j'ai été manipulé, j'ai cru de bonne foi, effectivement, que c'était une guerre propre, que c'était un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre moral qui s'imposait au monde. Et c'est vrai qu'il y avait des choses extraordinaires. Pour la première fois, on a vu les Soviétiques, puisque c'était en encore du temps des Soviétiques, dans le même camp que les Américains. On a vu les Européens s'engager dans cette guerre. On a vu les pays arabes s'engager dans cette guerre pour défendre un petit pays qui était attaqué. Je crois qu'il y avait effectivement une raison d'intervenir pour défendre le Koweït. Après, on sait que les véritables raisons avaient quand même une odeur de pétrole. Et je me suis rendu compte que j'ai été manipulé et que certaines personnalités, certains individus qui dénonçaient l'idéologie de cette guerre, eh bien, on les prenait pour des fous, on les prenait pour des parano, pour des contestataires un petit peu trop zélés. Et on ne leur a pas donné suffisamment la parole. On se rend compte aujourd'hui qu'ils avaient raison et qu'on avait tort. Et là, je n'ai pas de difficulté à faire mon mea culpa. Je crois que c'est ça qui est quand même positif dans notre société, c'est qu'on peut reconnaître avoir commis des erreurs, avoir commis des fautes. Moi, je sais que c'est une leçon que je n'ai pas. J'ai essayé de ne pas être manipulé de la même manière lors de la guerre au Kosovo, pour laquelle, en gros, très simplement, je peux donner en tant que citoyen mon avis. C'est que je crois qu'il fallait intervenir au Kosovo, qu'il y avait des choses qui se préparaient et qui avaient d'ailleurs lieu, qui étaient tout à fait effroyables pour la population albanaise au Kosovo. Mais j'étais personnellement, en tant que citoyen, opposé à la manière dont on est intervenu. Ces frappes de l'OTAN qui avaient pour but, en principe, de protéger les réfugiés albanais, de protéger la population albanaise du Kosovo, et qui avait l'effet inverse, c'est-à-dire les faire fuir et provoquer un grand coup d'accélérateur dans l'épuration ethnique menée par Milosevic. Donc c'était tout à fait contre-productif, c'était sans doute pas la bonne méthode, et je crois que beaucoup de journalistes dans la presse écrite où on est plus prompt à afficher ses opinions que dans la presse audiovisuelle, sans doute. Je crois que dans la presse écrite, il y a des journaux qui ont émis énormément de critiques sur la manière dont cette intervention a été menée, sans pour autant dire Milosevic est un petit ange, bien sûr. C'est ça qui est difficile parfois, c'est que il faut parvenir à se poser dans un moyen terme, c'est-à-dire dénoncer les frappes de l'OTAN, ça ne veut pas dire qu'on est pour Milosevic. Mais le problème, c'est que dans ceux qui dénonçaient les frappes de l'OTAN, il y avait quand même des gens qui étaient des idéologues et qui défendaient Milosevic. C'est là où ça m'embête un petit peu et où ça me dérange. Je crois qu'il y a une position intermédiaire qu'on peut adopter.
Votre discours comparatif entre la guerre du Golfe et celle du Kosovo me paraît déjà entendu, surtout de la part de la presse, c'est-à-dire qu'après le Golfe, toute la presse a fait son mea culpa en disant oui, il y a eu manipulation, etc. Après le Kosovo, et même déjà pendant le Kosovo, la presse était unanime pour dire nous faisons très bien notre boulot sur ce coup-là, etc. C'est vrai qu'après, il y a eu moins d'autocritique aussi. On estimait avoir retenu les leçons du Golfe. Et vous dites aussi d'ailleurs que la presse était beaucoup plus équilibrée. Vous avez illustré ça en disant que beaucoup de gens se posaient des questions sur la façon dont se déroulait l'intervention. Mais citez-moi un peu les journaux qui affichaient clairement être contre l'intervention.
Oh, il y a des journaux.
Parce que ça aussi, c'est l'équilibre.
Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que dans la guerre du Golfe, il y avait une espèce de grande unanimité, comme ça, à part quelques journaux. Durant la guerre, en tout cas, au début de la guerre, il y avait une grande unanimité en faveur de cette guerre. Dans la guerre au Kosovo, je crois qu'on a aussi été manipulé. C'est aussi une guerre comme la guerre du Golfe, où on n'a rien vu et on nous a fait croire qu'on voyait tout. Hein. Les militaires, quand ils font de la propagande, ils font leur métier et ils le font bien. Et c'est vrai que les journalistes tombent dans le panneau. Je crois qu'on est moins tombé dans le panneau dans la guerre du Kosovo que dans la guerre du Golfe. Et je crois qu'il y a des journaux qui ont été franchement opposés, qui ont dénoncé les interventions. Je pense à un des journaux qui a été le plus virulent à ce niveau-là, c'est Marianne, en France.
Mais vous dites un des, moi, le Figaro a émis des doutes aussi, mais à part ça, en Belgique, dans le reste de la presse française, pour moi, c'est le désert.
Libération a été extrêmement critique aussi. Il y avait sans doute un plus grand militant affiché chez Marianne, parce que c'est un journal qui affiche beaucoup plus ses opinions que des journaux comme Libé, qui ne manque pas de dire son opinion, mais qui le dit d'une manière sans doute Marianne ne se cache pas d'être engagée.
Mais Libération était pour la guerre. Elle a peut-être critiqué la façon dont elle se faisait, mais Libération était totalement acquis à la nécessité de faire la guerre.
Tout à fait, mais
Marianne... C'est ça que je demandais. Quels journaux ont dit non, il ne fallait pas y aller?
Mais honnêtement, moi je pense qu'il fallait y aller.
Oui, non, mais je demande simplement, pas votre avis, mais quels sont les journaux qui ont reflété la diversité d'opinion de l'opinion publique, qui étaient en partie aussi, il ne faut pas y aller. Il y a eu Marianne, et à part ça, même Charlie Hebdo était pour.
Mais c'est marrant ce que vous dites là, parce que je ne pense pas que Marianne, qui a dénoncé l'intervention de l'OTAN, était opposée à une intervention en Kosovo. Une intervention qui pouvait être autre chose qu'une intervention militaire. Même si effectivement Marianne a reproduit la visite de Debré au Kosovo, je ne suis pas sûr qu'ils ont comme ça donné leur blanc-seing aux propos de Debré. Bon, quels sont les journaux? Je crois qu'il y a les journaux ont essayé quand même. Je constate que dans le Soir, enfin j'ai constaté que dans le Soir, par exemple, il y a eu des avis de gens qui étaient tout à fait opposés à cette guerre, donc pas simplement sur la forme de l'intervention, qui ont été relayés. Ce qu'on n'avait sans doute pas fait autant lors de la guerre du Golfe. Alors, effectivement, il y avait peut-être aussi un consensus sur le fait qu'il fallait intervenir au Kosovo et que la critique se limitait à la forme de l'intervention. Je pense honnêtement que sur la forme de l'intervention, cette grande opération armée qui a été contre-productive au Kosovo, beaucoup de journaux l'ont quand même dénoncé chez nous, pas simplement en France. Je citais Marianne, je citais Libération, mais je crois que dans des journaux comme Le Soir, ça se retrouvait également. Bien sûr, il y a un décalage, ça j'en m'en doute, entre ce que vous avez pu lire dans Le Soir et ce qui devait être publié dans Solidaire. J'ai pas lu Solidaire toutes les semaines, mais je suppose qu'il devait y avoir un décalage, ça je le reconnais.
Pour terminer, le leitmotiv, ou plutôt la conclusion d'Anne Morelli dans son livre, c'est « Doute et agis ». Est-ce que vous pensez que c'est la devise, disons que les journalistes appliquent suffisamment ces devises et que la prochaine fois, ils l'appliqueront de façon préventive plutôt qu'a posteriori?
Mais les journalistes, je crois que quand on est journaliste, c'est qu'on doute de tout. Je veux dire, si on a vraiment une âme de journaliste, je crois que on doute de tout. Mais parfois, effectivement, il y a une pression. On doit faire des papiers, on doit fournir des images, on doit fournir des reportages. Parfois, le doute vient quand c'est trop tard. Et je crois que là, on a un mea culpa à faire. Je crois qu'effectivement, les journalistes font des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Sur la guerre du Golfe, je l'ai raconté, j'ai fait des erreurs d'estimation. Et le doute est venu après. Ça, c'est vrai, on n'est pas comme des historiens qui pouvons prendre le temps, voir les choses avec beaucoup de recul. Je crois que le doute doit être permanent avant de faire son papier. Mais parfois, il y a des dérapages, effectivement. Il y aura toujours des dérapages dans la presse. La question est de savoir si le journaliste est de bonne foi et s'il peut reconnaître qu'il a fait une erreur, effectivement.
Les chansons que vous avez entendues pendant l'émission, il y avait d'abord Les Elles qui chantaient Les Pauvres sur un album sans titre. Il y avait ensuite Deus avec Opening Night. L'album s'appelle In a Bar Under the Sea. Et enfin, c'était Win Waving My Dick in the Wind sur l'album The Mollusk. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rediffusion de l'émission vendredi, toujours sur 107.2 ou sur le site internet de Campus en direct. Également, le site internet de l'émission www.multimania.com/alterecho avec CH et en un seul mot. Je vous retrouve la semaine prochaine.